Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le 102.9 Radio Judaïque à Strasbourg. Aujourd'hui, émission spéciale, nous recevons Richard Audier, directeur général du FSJU, de passage à Strasbourg, accompagné de Monsieur Jacquies, président régional du FSJU. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors, vous êtes présent à Strasbourg Éclair, on a la chance de vous capter dans nos studios. Quel est le but de votre visite à Strasbourg, dites-moi?
Alors, Éclair, 2 jours. C'est... En fait, je dois venir tous les 2-3 mois, je pense, à Strasbourg, puisque oui. C'est d'abord une capitale européenne, une capitale régionale. C'est un centre très important dans le judaïsme européen aujourd'hui, Strasbourg, qui est une ville qui est dynamique, ce qui change un peu du paysage national, où on a des communautés qui sont un peu en difficulté. Vous êtes en plein dynamisme, donc il y a beaucoup de projets ici, que ce soit dans l'éducation, dans la jeunesse, bien évidemment dans le social, qui est le cœur du métier du Fonds social, et avec notre partenaire qui est l'ASJI. Et en fait, c'est aussi un microcosme Strasbourg qui nous donne beaucoup d'idées pour développer des projets au niveau de nos activités sociales, au niveau de nos activités sur les jeunes. On avait lancé ici le projet des librairies sociales, par exemple, qui ont ensuite été émulées sur d'autres régions. On a fait avec Laurent Gradvold, le responsable de la délégation, un très gros travail sur le lien social, sur les seniors. Et donc, c'est une ville qui nous permet de faire de l'innovation pour répondre à des besoins qui sont de plus en plus croissants, j'allais dire,
donc une ville test sur des projets spécifiques. Ouais. Vous voyez si effectivement ça prend ici et après vous les développez aux nations.
On essaye de pas être très jacobin, c'est-à-dire de voir des bonnes idées, des bonnes initiatives, des projets, que ce soit en Israël, dans les ONG juives ou israéliennes. Ça fait partie de l'ADN du Fonds social de s'appuyer sur des méthodes et savoir-faire qu'on évalue, qu'on teste. Et effectivement, Strasbourg est vraiment cette capacité-là assez extraordinaire de trouver à la fois au niveau des donateurs, au niveau des réseaux, et puis cette histoire du concordat qui permet aussi des choses. Et ensuite, on essaie d'adapter sur d'autres villes, d'autres régions, d'autres organismes, puisque nous, on fédère 400 associations. Donc, on vient donner ces informations à nos réseaux. On a fait un gros travail ici sur les seniors, un gros travail ici sur la jeunesse, qui nous permet ensuite de partager ça avec d'autres structures. C'est un peu l'idée de cette tête de réseau qu'est le Fonds social.
Et donc là, vous êtes donc 2 jours, 2 jours à Strasbourg. C'est quoi le programme, en fait?
Jacques Hess et Laurent Gradvold ont enrichi cette journée dans toute la diversité de nos métiers, puisqu'on a eu le bonheur avec Jackie Hess de rencontrer des donateurs qui travaillent avec nous, notamment sur la situation sur Israël, puisqu'on est extrêmement engagé et on en reparlera sur la situation en Israël aujourd'hui. On a des projets pour faire évoluer nos locaux ici. Alors, je ne vais pas dévoiler un scoop parce que tout n'est pas signé. Ce n'est pas qu'on cache.
Nous, on aime les scouts.
Vous aimez les scoops, mais on travaille aussi sur des projets ici à Strasbourg. Donc, on est venu pour ça. On rencontre aussi l'ancien ministre de l'Éducation qui est à la Commission européenne. On a rencontré un député européen ce matin pour parler aussi des projets éducatifs et sur la sécurité, notamment de la communauté juive dans cette folie de l'antisémitisme. Et puis, on a une réunion ce soir avec nos élus, puisque avec le président Jacques Hess, on veut expliquer que le Fonds social est une structure un peu particulière, puisque nous, on a un renouvellement de nos instances dans quelques semaines. Et le Fonds social a un peu cette folie juive ou israélienne d'avoir un fonctionnement comme la Knesset. Alors, ça a des qualités et des défauts. Donc, un vrai parlement avec des élus qui ont un rôle important, qui vont nommer au mois de juin un nouveau conseil des ministres et un nouveau président, l'équivalent d'un premier ministre. Et en fait, on veut expliquer les règles qui existent, répondre à des questions à ceux qui sont candidats, qui sont élus. Et donc, on fait ça ce soir à la délégation.
D'accord. Alors, on a parlé effectivement des actions que vous avez entrepris. Si on devait faire un bilan sur l'année 2023, dont effectivement le 7 octobre a enclenché des choses un peu dans l'urgence qui n'étaient pas prévues, et j'aimerais savoir. Alors, le bilan national et puis aussi par rapport à Israël, déjà national dans un premier temps, et puis les campagnes d'urgence qui ont été enclenchées, comment ça s'est passé, comment vous avez dû réagir à l'instant, comment les gens ont répondu à cet appel, et en fait, vous avez collecté une certaine somme, et comment cet argent a été dispatché.
Je vais répondre point par point. Alors le premier point, c'est que au premier jour de Tishri, on a vu la campagne des Restos du Cœur, on voyait ce qui se passait sur la pauvreté, l'inflation sur les prix, et au début de Tishri, on s'est dit on va pas pouvoir garder nos objectifs de collecte comme ils l'étaient l'an passé, il va falloir qu'on augmente de 15, 20, 30% la collecte normale, la campagne nationale de la Tzedaka, parce que la pauvreté dans la communauté juive explose, avec des chiffres qui sont terrifiants. Et donc on s'était donné un objectif de progresser sur la collecte pour la France. Et on a notre collecte qui est dédiée vers Israël, qui était maintenue sur des montants annuels classiques, parce qu'Israël c'était la Startup Nation, Israël était un pays en paix, en plein développement, avec une réduction de la pauvreté. Bon. Et donc on a commencé à donner des objectifs sur la campagne de la Tzedaka, qui était l'année dernière de 3 300 000 euros de collecte. On s'était donné un chiffre un peu fou, on a dit qu'il faut collecter 5 millions. Donc là, au 31 décembre, et je vais parler bien évidemment du 7 octobre, mais au 31 décembre, la campagne de la Tzedaka finalement est revenue sur ses chiffres de l'an passé, pas aux 5 millions, puisqu'on a collecté en fait, à partir du 7 octobre, 4 millions 2 pour Israël. Les 4 millions 2 ont été en flux direct, mais on a aussi collecté énormément d'argent pour Israël, comme ici avec le maire Jeanne Bergassian pour... qui a fait un vote la semaine dernière de 7500 euros pour le FSJU, pour un fonds dédié à Israël. On a fait ça avec des mairies à Marseille, à Paris, avec des régions, et puis aussi avec des fondations privées. Et c'est à peu près 1 million d'euros qu'on a réussi à collecter aussi directement, c'est-à-dire par la transparence du fonds social, puisqu'on publie nos comptes, on publie nos statuts, on publie notre gouvernance, on évalue les programmes, on signe des conventions avec les partenaires pour pouvoir envoyer à Israël. Et on a eu un effet de levier colossal, puisque sur la partie juste Israël, au-delà de l'argent, on a plusieurs millions d'euros de marchandises qui ont été offertes, que cela soit pour faire partir de France vers Israël ou en Israël, puisque... On a à peu près donné 1 300 000 euros au Resto du Cœur israélien, qui s'appelle La Tête. On est le partenaire français de La Tête. C'est Gilles Darmon qui a créé ça. Et en fait, on a un effet de levier de 1 à 7. À chaque fois qu'on donne 1 euro en Israël à La Tête, un peu comme avec le Resto du Cœur, les supermarchés israéliens abondent avec La Tête. Les restaurants font pareil. Les groupes pharmaceutiques, les dates limites de consommation. Donc le 1 200 000 euros en cash amenés par les donateurs du Fonds social à La Tête se traduisent à environ 8-9 millions d'aides directes livrées dans les familles avec des besoins identifiés, des critères sociaux. Donc ça, avec les 4 millions qu'on a fait, on a fait la même chose. Et je reparlerai un peu plus en détail du programme Israël. Mais donc la fin d'année, pour donner ce bilan 2023, c'est-à-dire Fonds social juif unifié, on a une progression de la collecte qui est liée au fonds dédié à Israël, mais une forte inquiétude sur la pauvreté en France, sur l'envol de l'antisémitisme qui nous crée des sujets, bien évidemment, de sécurisation des biens et des personnes, mais aussi de financement. Voilà, globalement, pour l'année 2023.
Sur la France, quel est à peu près le pourcentage sur la communauté juive qui vit en dessous du seuil de pauvreté ?
À peu près 50 000 personnes.
Voilà, effectivement, parce que c'est vrai le fameux mythe du juif riche, 50 000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est combien par jour, rappelez-moi, c'est vraiment très très peu.
On est, suivant les critères, entre 5 euros par jour, et après il y a le critère SMIC, il y a plusieurs niveaux, c'est comme pour le handicap, il y a des critères un peu différents suivant on prend l'INSEE ou pas. Mais globalement, nous, le chiffre objectif, c'est ça. C'est les familles que l'on suit. Je le redis à chaque fois, mais c'est quand même près de 3000 enfants à qui on paye la cantine grâce à nos donateurs. Donc sur les 35 000 enfants en école juive, il y en a 3000 qui mangent grâce aux donateurs du Fonds social juif unifié. Là aussi, avec un effet de levier colossal, puisqu'on paye les cantines grâce aussi à une logistique qui est mise en place. Parce que si on devait donner un panier de repas à ces personnes-là, ça coûterait beaucoup plus. Voilà, c'est une communauté juive qui est, pour la partie française, qui est touchée, atteinte moralement, spirituellement, financièrement. Et puis le choc du 7 octobre, on va le mesurer sur des dizaines d'années.
Oui, c'est ça, effectivement, sur des dizaines d'années. Vous parliez de la subvention qui a été accordée par la mairie de Strasbourg et Madame Jeanne Barseguian, qui donc va aller à une association de femmes violentées en Israël. Les autres mairies avec lesquelles vous avez passé des accords, c'est des mairies qui ont forcément un jumelage avec Israël ou pas forcément ?
Pas forcément, mais c'est très difficile, parce qu'on a fait des opérations de ce type avec des entreprises et presque toutes veulent rester anonymes. Et avec les mairies, c'est vrai que ce soit ici, ou je prends l'exemple de Anne Hidalgo pour Paris, c'est des discussions très complexes. Parce que souvent, il y a des élus autour d'eux, LFI par exemple, qui sont dans une opposition radicale. On a vu dans le vote à Strasbourg une unanimité qui fait plaisir, mais quand même une abstention d'un élu communiste qui a voulu prendre la parole. Voilà, c'est des sujets où normalement le combat de la lumière et de l'ombre était simple. C'est un peu les propos du président Macron lors de l'hommage aux filles et familles. Dans la cour des Invalides à Paris, normalement il devrait y avoir 68 millions de Français qui pleurent. Et je pense que le président de la République a eu raison de dire qu'il y a 68 millions de Français qui devraient être en pleurs. Et pour les mairies, c'est la même chose. Tout le monde devrait être solidaire. Et cette solidarité, elle est souvent accompagnée d'une ambivalence, parce qu'on dit, on donne un pour Gaza, un pour les... Alors certains disent les Juifs, alors ce qui n'est pas vrai. Là, en Israël, c'est 20% de non-Juifs. Chrétiens, druzes, musulmans, on sait que dans ce pays qu'Israël, il y a une diversité reconnue, une liberté de culte, une liberté de presse. Donc ces équivalences sont parfois compliquées, comme avec la Croix-Rouge, le CICR. Mais bon, voilà, on est quand même pas seul. Il faut se réjouir de ça, il faut se réjouir de gens qui prennent un risque politique ou un risque, j'allais pas dire un risque, parce qu'on est... On est en France avec liberté, égalité, fraternité, mais qui se rappelle que les valeurs de la République l'emportent sur les clivages politiques.
Et il y a eu le 7 octobre, au début, stupéfaction, sorte d'empathie par rapport aux victimes juives. S'en est suivi effectivement la riposte. À partir de ce moment-là, les actes antisémites ont volé en éclats. Les chiffres sont juste hallucinants. Vous, déjà, avant ça, vous déplaciez des familles pour les mettre en sécurité. Et là, est-ce que la demande a explosé? Comment ça se passe?
Là aussi, je vais reprendre trois petits éléments qui sont, je pense, pertinents pour vos auditeurs. Le premier, c'est qu'on doit souligner le rôle essentiel des radios juives, puisque je rappelle que ce Shabbat Shachor, ce samedi noir, ce 7 octobre, c'était autour de Simchat Torah. Et le bouche à oreille ou le WhatsApp des uns et des autres a fait qu'on a compris qu'au milieu de Simchat Torah, il se passait quelque chose. Et on a eu des appels d'un kibbutz qui est un partenaire historique du Fonds social, qui est Kerem Shalom, qui a été initié grâce à une donatrice d'un leg magnifique, Madame Miropolsky de votre région de l'Est, qui avait retrouvé la délégation est du Fonds social. Et quand on a initié avec Kerem Shalom il y a quelques années, on s'est lié d'amitié avec un kibbutz qui est magnifique, qui est à la fois un kibbutz qui est monté par la Shomer HaTzair et le Bnei Akiva. Et le samedi matin, les gens de ce kibbutz m'appellent, des gens religieux m'appellent, très religieux que je connais, et je vois sur mon WhatsApp des appels incessants. Je décroche, je me dis, il y a quelque chose. Et là, des cris de panique, un peu d'hystérie, on crie en arabe autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent pas ce qui se passait. Et quand on comprend, ensuite on tourne sur les chaînes, parce qu'on a rompu ce jour de fête, j'ai appelé vos consoeurs de RCJ, j'ai dit, voilà, on va ouvrir l'antenne demain matin, il faut qu'au nom du Picouar Nefesh, au nom du sauvetage de la vie, qu'on explique ce qui se passe. Et c'est vrai que dans les 2-3 premiers jours, les médias nationaux n'ont pas su faire ce travail. Et les radios juives ont fait un travail pour les Israéliens, pour les francophones, pour la communauté remarquable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'entre le 7 octobre et l'intervention terrestre des Israéliens dans Gaza, il y a eu 3-4 jours où, normalement, l'antisémitisme aurait dû non seulement disparaître, mais ne même pas être un sujet.
Ouais.
Or, en fait, au moment où, comme l'a dit le président Macron, il y a eu le plus grand crime antisémite du 21e siècle, entre ces 4-5 jours où il n'y avait que de la sidération, des prises d'otages, des violences sur des enfants, sur des femmes, sur des hommes, etc., on se serait dit une solidarité de cœur évidente, une solidarité. En fait, ça a eu un effet inverse.
Mm-hmm.
Ça a été l'initiateur dans ces 4-5 jours où on aurait espéré 68 millions de supporters en fait, face à la barbarie. Il y a eu une flambée de l'antisémitisme. Et c'est la leçon de la Shoah qu'on doit apprendre. La seule leçon de la Shoah qu'on doit apprendre, c'est celle-ci. C'est une phrase connue qui dit « Ils ne nous pardonneront pas le mal qu'ils nous ont fait ». Et en fait, les antisémites, quand ils ont vu que des gens, au nom de la haine des juifs, étaient capables de faire ça, ça les a excités dans leur haine anti-juive. Et c'est incroyable, cette leçon. Parce qu'on aurait espéré un antidote majeur.
Oui.
Et c'est l'inverse qui s'est passé.
Mm-hmm.
Et donc, derrière, il y a eu de la violence. Mais ce qui est plus catastrophique, et on en parle énormément avec le SPCJ, avec le ministère de l'Intérieur, c'est qu'au lieu d'être éteint, dans cette période-là, il n'y avait aucun Israélien qui était à Gaza, sauf les kidnappés. C'était une terre Judenfrei, pas de juifs, sauf les kidnappés. Et bien là, ça a généré une folie antisémite dans notre pays. Et ça, on est encore dans le temps du quotidien, on ne l'a pas encore vraiment pensé. Il faut des philosophes qui vont prendre le temps, des historiens. On est encore dans l'actualité, mais c'est inadmissible, impensable. Et seuls les naïfs pouvaient croire que l'antisémitisme pouvait, en fait, éteindre l'antisémitisme. C'est l'inverse.
Oui.
Voilà.
D'accord. Alors,
je ne vous rassure pas en disant ça,
non,
je sais bien.
Non, mais je pense que c'est bien aussi de rappeler la réalité. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une sorte, un faux climat de confiance de la part de la communauté juive ? Finalement, elle est tellement intégrée qu'elle s'est dit, en France, on n'aurait même pas eu à se reposer ce genre de questions et de nouveau avoir peur à ce point. Parce que, en tout cas, des manifestations, même par petits groupes, et on les voit à Strasbourg, ils sont là, ils occupent le terrain. On ne voit que du drapeau palestinien.
Ben, on a vu ce qui s'est passé à l'université de Strasbourg
voilà,
il y a quelques jours
fait,
pour ces
oui.
trois jeunes filles. Je pense qu'il y a deux sujets là-dedans. Il y a l'État, qui, je crois, fait son travail. Nous, on a eu plusieurs réunions avec le ministère de l'Intérieur, avec l'armée, pour nous dire comment mieux protéger,
ouais.
mieux défendre.
Et rappeler que jusqu'à présent, il n'y a que la France qui a fait une cérémonie
voilà,
telle que celle qu'il y a eu aux
Invalides. Vraiment, voilà, ça, on a un
voilà,
pays,
c'est le seul pays
dont
qui
les
l'a
cadres
fait.
Aujourd'hui tiennent. Dans la rue, aujourd'hui, on est à Strasbourg, il y a une Megan David, il y a le drapeau israélien devant la synagogue. Donc on peut vivre comme ça, il y a un quart de CRS, mais on a quand même une république qui tient. Pour autant, il y a ce qu'on appelle l'antisémitisme de voisinage,
oui.
qui est absolument terrifiant, que l'État ne sait pas gérer, que l'éducation nationale a laissé tomber depuis 20 ans. On n'a pas compris les signaux qui ont été lancés par les fameux territoires perdus de la République, par un certain nombre de lanceurs d'alerte, par Caroline Fourest et Fiametta Wenner, par les uns et les autres. Et en fait, si on reprend un effet de focus sur cet aspect-là, on dit toujours qu'il faut éduquer nos enfants. Mais si on ne les éduque pas, et si on les éduque à la haine, les enfants deviennent adultes. Et en fait, ça fait 20 ans qu'on dénonce les investissements fous, notamment des Nations Unies, vers l'UNRWA, pour financer une éducation à la haine. On apprend dans les livres d'enfants à tuer le juif, à le dénigrer, à dire qu'il est un porc, qu'il est un singe. On voit ces dessins animés sur Memory, sur des émissions de radio au RCJ, à Judaïka, fait par les Mnébrid, fait par le CRIF. Et si on ne comprend pas que 20 ans après, ces gens-là, ils trouvent normal de décapiter une femme ou de brûler des corps ou de tirer à bout portant dans des abris, avec, on ne comprend rien à ces fameux gens, personnes qui disent devoir de mémoire, la Shoah, etc. Donc on a eu, nous, juifs, on a fait une erreur stratégique, je pense, de ne pas avoir réussi à convaincre ça depuis 20 ans, alors qu'on l'a dit, écrit, mais on n'a pas convaincu. Et là, on voit que la haine qui a existé dans nos banlieues, dans nos villes, dans nos écoles, dans nos lycées, Quand on la laisse passer, qu'on laisse un Samuel Paty se faire découper, un Dominique Bernard se faire assassiner, et qu'on ne réagit pas comme il le faut, mm-hmm. et qu'on cède du terrain, que des gosses qui sont victimes d'antisémitisme sortent eux du lycée public, oui. et on ne sort pas le salopard mm-hmm. qui a fait les actes, 20 ans après, voilà, on a une folie de voisinage qui fait que, on en parlait avec Jacques Hyest tout à l'heure, qui est que les Juifs enlèvent les mezouzas, qui sont normalement oui. le symbole de la protection, mm-hmm. et là, ça devient un symbole d'attaque de nos foyers. Et je pense que si nos... Alors j'en fais partie, hein, et si les cadres dirigeants de la communauté, on ne prend pas le temps, un moment, de changer nos logiciels, d'être humble sur nos erreurs, mm-hmm. On n'aura rien appris du 7 octobre, comme finalement on n'a pas bien appris de la Shoah.
Eh bien oui, alors on va essayer de partir sur les projets 2024 parce que quoi qu'il arrive, bah, la vie elle continue, la vie en Israël elle continue aussi, au bout, voilà, l'activité malgré tout. Ce que vous avez entrepris en 2023, j'imagine, va encore prendre plus d'ampleur en 2024. On m'a dit que vous aviez signé des accords de partenariat avec certaines associations en Israël. Mais voilà, en fait, vous vous occupez aussi bien d'Israël qu'en France. Quelles vont être les principales lignes directives pour 2024 ?
Je crois que la leçon du 7 octobre, nous, on connaît très bien ces kibbutz mmh. de la bande de Gaza, qui sont de la côté israélien, mais qui sont face à la bande de Gaza. On les connaît depuis longtemps et on a perdu beaucoup d'amis, beaucoup de gens avec qui on a travaillé, monté des programmes. Et je crois que la leçon de toute cette histoire, c'est qu'il faut écouter le terrain. Mmh. Et c'était aussi une des raisons. C'est pour ça qu'avec Laurent Gradol et Jacques Hess, on passe beaucoup de temps ensemble à visiter des associations, à visiter des bénéficiaires, à essayer de penser. Parce qu'en fait, le terrain, et on le sait, les unités israéliennes du Shmoneh Mataim, c'est-à-dire du renseignement cyber, avaient alerté ce qui allait se passer. Le Shabak, en octobre 2022, fait une lettre au gouvernement israélien pour dire, voilà, il y a un risque majeur. Les Égyptiens appellent, mais on n'écoute pas le terrain. On reste dans une habitude. Et donc, nous, ce qu'on constate, et c'est la démarche du Fonds social pour Israël, c'est de dire, voilà, on ne va pas amener nous, petits Français, avec nos euros... quand on sait que Michael Bloomberg tout seul a donné 50 millions de dollars au Magen David Adom, mm-hmm. on ne va pas donner des leçons de générosité ni d'argent. Par contre, on va essayer d'être un peu raisonnable et d'utiliser les meilleurs process, exactement ce que je vous disais pour débuter notre entretien. Voilà, qu'est-ce qui se fait bien pour essayer de sauver des sujets ? Donc on a travaillé avec un énorme comité de conseil anglo-saxon qui veut rester anonyme et qui a été souvent évoqué dans la presse, mm-hmm. on travaille au niveau international pour voir comment on pouvait répondre au mieux, nous, petits Français, oui. à des problèmes. Et donc, on a travaillé pendant 2 mois à fond pour l'après 7 octobre. Et en fait, on monte un programme sur le post-trauma, sur les enfants, mm-hmm. Avec un matching de structures israéliennes et très spécifique. Donc, on a un programme sur Be'er Sheva où 100% des enfants de 8 à 14 ans vont être pris en charge. Et c'est spécifique à Be'er Sheva, c'est une ville que vous connaissez un peu, mais qui est multiculturelle. Il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de bédouins, beaucoup d'étudiants dans cette ville. On a un programme spécifique à Ofakim et Netivot, ce sont 2 villes, on pourrait dire des anciennes villes dortoirs, où on avait envoyé à l'époque l'agence juive un petit peu pour comme on le disait en Israël, les Marocains, pour habiter le désert, oui. on leur avait fait miroiter le désert, on leur a donné des HLM dans ces villes. Et ces 2 villes qui ont été extrêmement touchées différemment, alors qu'elles sont similaires, puisqu'il y en a une à Ofakim où il y a eu 45 morts, et à Netivot 3, pour des raisons de sécurité différentes, mais ils ont récupéré les enfants des kibbutz qui sont oui. en face. Donc là, on va faire un programme sur 2 ans pour gérer cette violence qu'il y a eu. Les enfants ont souvent des parents morts ou kidnappés. Et puis le troisième volet, c'est qu'on a mis en place un financement des bourses des étudiants de ces kibbutz pour qu'ils n'aient pas à se payer des études dans ce moment-là où il n'y a d'abord pas de travail.
Ouais.
Et pour qu'ils n'abandonnent pas les études, qui est alors la survie de ces endroits pour les 20 prochaines années. Donc là, on a quelques millions d'euros d'investis. Il va falloir qu'on les collecte. Je me tourne vers le président Jacques Hyest parce que la collecte va être un élément clé du mmh. sauvetage de ces programmes. Mais si je prends ce programme, on va toucher à peu près 140 000 enfants jeunes.
Ouais.
Et c'est une réponse spécifique par des Israéliens avec un matching de structures israéliennes, société civile, avec les maires, parce qu'en Israël, ce qui marche, c'est les mairies. Mmh. Les mairies sont des acteurs de la société civile, mieux que le gouvernement. Et donc là, voilà, on va lever de l'argent pour les deux prochaines années, spécifiquement sur ces programmes qui sont ciblés avec des indicateurs enfant par enfant, avec les profs. On a 100% des profs de toutes ces écoles qui sont nos partenaires, les psychologues de ces écoles. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres des enjeux de 2024 sur 24-25 pour Israël. Je ne sais pas si Jackie, tu veux compléter sur ces dispositifs ou tu veux rester...
Non,
de rester discret. Voilà.
Alors moi, j'ai une petite question hein, qui peut paraître... Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment, parce qu'on est pris tous par notre quotidien, nos soucis ici, la mobilisation risque de baisser, que les dons risquent de baisser à un moment, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez déjà une stratégie pour qu'on maintienne quand même toujours, si quelqu'un a besoin d'aider, enfin, est-ce vous avez déjà pensé à ça? Prévu des choses?
Oui, si vous voulez, nous on a énormément travaillé avec les autorités sur place pour essayer de canaliser le besoin d'expression de générosité.
Oui. Il y a eu... Chacun veut faire sa part,
tout le monde a voulu
ça.
Faire des choses, ouais. C'est magnifique, mais j'ai visité plusieurs fois depuis le 7 octobre les entrepôts à Ben Gurion, il y a des millions... de produits en déshérence, des livraisons de produits qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas de besoin. Vous êtes habillé en vert fluo aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que des gens ont voulu donner, par exemple, des produits chauds pour les soldats. Alors, ils nous ont livré des produits de marque qui commençaient avec un U, qui finissent par avec un O. Géniaux, très bons, performants, ou avec un D et un N à la fin, sportifs. Mais du matériel fluo, alors que c'est pour du matériel de protection pour des soldats. Vous imaginez livrer du produit fluo alors qu'un soldat cherche à se cacher. Bon, je peux vous donner des exemples par milliers comme ça. Et puis, cet effet levier, vous voyez, si vous amenez un repas à quelqu'un, qu'il n'y a pas de matching, ben vous avez déplacé de Paris, de Strasbourg, de Marseille ou de Clermont-Ferrand 10 euros, vous avez mis du transport, vous avez mis du temps, vous avez mis de l'énergie pour mettre 10 euros en Israël. Et donner ces 10 euros directement à des structures israéliennes qui, là... C'est là où on doit être intelligent. C'est là où, si on a une culture de nos textes, d'accord, on doit avoir cette notion de la mishpat, de la justice, et vérifier ce qu'on fait. Est-ce que les programmes existent? Est-ce qu'on a des indicateurs? Est-ce que l'argent arrive bien? Est-ce que l'achat qu'on a fait, si je prends l'exemple de on a un ami que vous connaissez bien à la radio et que Laurent Gradvold et Jackie se connaissent bien, qui a organisé notamment le voyage de la mairie, qui s'appelle David Onona, qui a été mobilisé en ce moment. Il a reçu des gilets envoyés par des communautés françaises, super, hein, en céramique, géniaux. Mais d'un côté, il a reçu les gilets, de l'autre côté, la céramique, mais il n'y avait pas les scratchs pour mettre la céramique. Vous imaginez, c'est un gâchis d'argent parce qu'on n'a pas pris un fournisseur qualifié par l'armée qui vous dit oui, vous pouvez acheter si vous voulez, mais c'est telle référence, tel fournisseur. Enfin, on a été dans cette empathie. Ce que je comprends, j'ai pas un jugement moral en disant ça. Mais je pense qu'à un moment, il faut que les acteurs se responsabilisent parce que le don commence à s'essouffler. Alors, il y a encore beaucoup d'actions sur les otages. Et les besoins pour la société civile israélienne sont déments. C'est plus de 50 milliards d'euros d'accord, qui ont été dépensés. C'est fou, à la taille d'Israël. Les jeunes dont on a tous les photos en tête, on est fiers de voir nos enfants en Israël se battre, mais quand ils rentrent, après 3-4 mois, quand ils ont fini, en ce moment, il y en a qui sont libérés des périodes de réserve, ils ne retrouvent pas leur boulot. Alors qu'il y a une obligation légale en Israël de réembaucher, mais parce que les entreprises n'ont plus de business, ils n'ont plus de trésorerie. Donc ces gosses qui se sont battus pendant 4 mois, mais donc il faut retrouver ces structures... Bien sûr, comme le fonds social, mais pas seulement. Moi, je défends le fonds social parce qu'on publie nos comptes, on donne tous les résultats, on est des indicateurs. Mais posez-vous la question, comment utiliser les fonds? Est-ce que vous avez cet effet de levier? Est-ce que derrière, il y a une traçabilité? Et là, je pense que la communauté juive française ne réalise pas les besoins d'argent qu'il faut. Et on aura un travail considérable d'appel aux fonds sur la partie qui arrive. Il faut aussi trouver des fonds publics, européens, d'entreprises. Et nous, on se porte garant de tout ça, de ce travail de suivi. On n'est pas en concurrence de collecte qu'on donne à tout le monde. Mais voilà, chaque euro doit être réfléchi de la sorte parce que les enjeux pour le pays sont gigantesques.
Sans oublier, effectivement, le niveau national qui est aussi, au niveau national, beaucoup de familles souffrent. Et toujours à arriver à maintenir un équilibre, finalement.
Bien sûr, parce que je vous donne là aussi une indication qui est intéressante. On a 35 000 enfants en école juive avant le 7 octobre. 100% des écoles juives ont reçu des demandes de panique de parents qui voulaient placer leurs enfants en école juive. Alors, on amène, nous, 75 millions d'euros de l'État dans ces écoles juives par le biais de, du travail du Fonds social. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de budget, puisque il y a une natalité en baisse en France. Il y a des besoins de sécurité pour tous les collèges et lycées. Comment on va gérer ça? Ça ne vient pas... Voilà, on peut faire toutes les incantations, ça ne suffira pas. Donc, il y a une mobilisation générale qui doit être faite, de coordination, ce qu'on n'est pas... C'est le défaut majeur de la communauté juive française. Hein. On le sait bien, sur tous les mouvements, on a du mal à se coordonner. Alors, on a la chance que Yonatan Arfi, le président du CRIF, avec Ariel Goldman, le président du Fonds social, on essaie de faire des choses ensemble, de se coordonner, d'essayer de... Mais bon, voilà, on est tous... Même nous, hein, on essaie d'avoir cette, cette humilité, mais c'est pas simple. Tout le monde veut se créer... Alors, on essaie de coordonner les collectifs, de leur dire, faites des actions communes. Ce qu'on fait, par exemple, à Paris, il y a tous les vendredis midi, on a pu ordonner que la Viso fait un travail formidable avec le CRIF. Tous les vendredis midi, on rappelle les otages. Au début, il y en avait partout dans Paris. Bon, ben voilà, c'est une action qu'on peut coordonner. Ouais. Faire pareil pour l'argent. Et sur la partie, justement, française, je pense que les associations d'aide, comme l'AIJ ici à Strasbourg, il faut qu'elles soient soutenues financièrement, parce que les besoins... En France, par rapport à tout ce sentiment d'insécurité, d'antisémitisme et d'inflation de prix, mais on a des effets boomerang énormes. Désastreux. Et donc, je pense que voilà, sur Judaïka, comme, comme sur tous les médias de la communauté, il faut rappeler que les années 24-25 vont être une année pour ceux qui peuvent se permettre. On ne doit pas faire 10-20% de plus de dons, mais on doit doubler, tripler ces dons. Et c'est vraiment ça l'enjeu. On n'est pas à dire on doit faire une progression.
Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Chers auditeurs, commencez à faire des économies pour pouvoir augmenter un peu vos dons. On vous remerciera du fond du cœur. Monsieur Jacques Hiès, monsieur Richard Audier, merci infiniment d'avoir été avec nous sur le 102.9 Radio Judaïca Strasbourg et sur radiojudaïcastrasbourg.com. Merci.
Merci beaucoup.